Chronique des années égarées.
Témoin privilégié d'une époque à la fois riche et douloureuse, Serge Moscovici nous conduit sur les chemins du souvenir de son enfance roumaine à Paris. Il est le guide de cette histoire qui est un peu la nôtre.
Serge Moscovici, bonjour.
Bonjour.
Alors, lors de notre dernier épisode, nous avons tourné une page, celle de la Bessarabie. Vous m'aviez d'ailleurs dit, alors que vous ne tourniez pas cette page et que la Bessarabie était restée à tout jamais en vous, nous avons découvert un Bucarest en proie au fascisme, à l'antisémitisme. Il y a eu à Bucarest, à l'automne 40, un tremblement de terre. Les secousses ne furent pas que telluriques, elles furent politiques également, avec les assassinats commis par les gardes de fer.
Oui, c'était un tremblement de terre assez terrible parce qu'un hôtel s'est écroulé, un très très grand immeuble de plusieurs étages. Mais en même temps, les gardes de fer commencent à liquider, si on peut dire, la classe politique démocratique ou celle qui restait du temps de roi Carole. Je pense qu'il y a 90 personnes qui ont été fusillées dans la forêt de Jihlava, et les gardes-fer s'installent s'installent au pouvoir, à la fois par le général Antonescu et par le Oriassima, qui était le chef de ce parti politique, de ce mouvement. Et une fois la garde-fer au pouvoir, bon, on était dans le régime nazi.
Est-ce que tout de suite la population a été au courant de ces assassinats ?
Mais oui, bien sûr, oui. C'est comme si on avait fusillé des gens à Boulogne, au bois de Boulogne, donc tout le monde le savait.
C'est également pour les Juifs l'heure du pogrom qui a sonné. La délation est également de la partie. On dénonce beaucoup des Juifs.
On dénonce beaucoup des Juifs. On essaie de leur arracher la fortune. C'est une sorte de pillage, la corruption, comme je disais, et puis une sorte de désorientation profonde. Maintenant, on se trouvait devant quelque chose d'inconnu. Il faut le dire que la venue de la garde de fer au pouvoir, ce n'était pas l'antisémitisme ordinaire, si je puis dire. C'était l'inconnu historique, c'était l'inconnu de ce qui va se passer. De toute façon, on savait déjà qu'on était dans les mains d'Hitler.
Alors, deux semaines après ces tueries, après ce déferlement insensé de violence, les Juifs se voient astreints aux travaux forcés.
Non, ça c'était dans les années 41, c'est-à-dire, d'abord il y a le pogrom. Enfin, en ce qui concerne la masse de la population, si vous voulez, d'abord il y a le pogrom de Bucarest qui a duré 3 jours. Et que j'essaie de raconter, ça me serait difficile de le parler. Hein. Imaginez-vous que tout un quartier est dans les mains de ces masses, de ces foules, qui viennent piller, brûler. Mon cousin échappe heureusement parce que les gardes-fer ont enfermé dans une synagogue, la plus grande synagogue de Bucarest, environ 200 personnes. Et je raconte cet épisode aussi, le fait que ma tante, parce que j'avais l'air roumain, m'envoie faire les courses. Et donc je participe ou je vois, si vous voulez, ce qu'on fait.
Parce que vous vous retrouvez un peu par hasard en plein pogrom, finalement.
Je me trouve pas par hasard, c'est parce qu'elle me dit, tu as l'air roumain, on ne te fera rien, donc va faire les courses. Et donc je me trouve à suivre ces bandes. Et donc je vis un peu ces pillages. Ces violences, et qui a beaucoup changé, si vous voulez, la façon dont je voyais, je ressentais l'être humain en général. Parce que j'ai toujours essayé par certains côtés naïf, mais j'étais à ce moment-là très très naïf en ce qui concerne les possibilités d'un être humain.
Qui sont les pilleurs ? Des gens ordinaires, finalement ?
Des gens ordinaires, des gens, des ouvriers, des étudiants, des lycéens, des étudiants, des bourgeois, des je sais pas, c'est tous, enfin. Et donc, et puis la nuit, on avait peur, et puis il y avait quand même des gens qui ont été emportés, des gens qui ont été tués toujours dans cette même forêt. Et puis il y a eu des gens qui ont été tués, assassinés vifs et accrochés comme des bêtes dans l'abattoir de Bucarest, qui était très près de l'endroit où nous habitions. Et puis il y avait aussi la disparition d'Izou, qui était mon ami, et qui a été enfermé dans le je pense que c'était le quartier général ou un des quartiers généraux de ce pogrom, et qui a été battu, enfermé pendant toute une nuit avec 30 personnes dans une très petite pièce, et puis qui s'attendait à être amené, puisque d'autres gens ont été amenés. Et finalement, au bout du troisième jour, le pogrom a été arrêté. Je ne veux pas entrer dans les détails politiques de pourquoi il a été déclenché, pourquoi il a été arrêté.
Parce que tout cela est quand même très calculé.
Très calculé. Et donc, si vous voulez, il a survécu à cela. Mais je pense qu'il en a porté la trace pour toute sa vie.
Mais le côté complètement fou de cette histoire, de cette période, c'est qu'effectivement, vous le disiez tout à l'heure, votre tante vous envoie faire des courses, vous retrouvez donc dans cette haine, dans ce déferlement de haine où tout semble permis, toute l'inhumanité devient quelque chose de quotidien, et vous revenez avec les courses.
Oui, parce que la vie, la vie continue. Vous savez, même dans les situations les plus catastrophiques, la vie ne s'arrête jamais. Hein, je veux dire, les gens, je sais pas, on est des animaux comme ça. Je veux dire, on suit ses habitudes, on doit manger, on essaie de dormir. Enfin, vous voyez, on essaie de retrouver une certaine normalité. Et à la fois, ça paraît fou, et à la fois, c'est la seule chose qu'on peut faire, c'est-à-dire sauver un semblant de vie.
Alors donc, les Juifs se voient astreints aux travaux forcés.
Et alors donc, une semaine après, le général oblige les Juifs à faire des travaux forcés. Oui, certains sont envoyés en province, comme mon cousin. Et moi, on m'envoie à nettoyer la neige, puisqu'on était en plein hiver au mois de janvier.
Alors vous avez déjà parlé de votre taille, elle va vous jouer un nouveau tour, parce qu'en raison donc de votre grandeur, vous êtes désigné comme étant le chef.
Oui, c'est la première fois d'abord que je rentre en contact avec la militaire, et la militaire, nous étions 40 jeunes et enfants de cette école de l'Ort, et comme j'étais le plus grand, il me nomme le chef de cette équipe de nettoyage de la neige. Et puis, il y avait d'autres enfants. Et alors, je ne sais pas pourquoi, les plus grands, ceux qui pensaient qu'ils avaient un métier, qu'ils étaient des artisans, nous sommes envoyés travailler avec l'armée à la construction des abris antiaériens.
Alors vous devenez artisan, clairement en devenant artisan vous découvrez vous aussi les travaux forcés, parce qu'en fait les abris antiaériens, il faut creuser.
Il faut que oui. Là aussi c'est parce que j'étais le plus grand, on me nomme le chef de cette équipe, mais là on travaillait avec des militaires, on n'était plus un groupe purement des juifs, nous étions les artisans de cette unité militaire. Et au début, on nous demande à faire 3 mètres cubes par jour. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire, 3 mètres cubes, de creuser 3 mètres cubes en hiver. Et là, c'était au début vraiment le désespoir et l'épuisement total, et la saleté. Et puis quand on rentrait chez nous, les gens dans le métro nous regarder d'une drôle de façon, enfin, parce qu'on puait, on était sale. et on se sent à la fois rejeté, on devient quelque chose de rien, on devient rien. Comme j'ai toujours une sorte de sens de conscience du devoir, une sorte de culpabilité, je me sentais un peu responsable et coupable par rapport aux autres jeunes qui étaient avec moi, dont j'avais la responsabilité, mais une responsabilité que je ne connaissais pas.
Il faut dire que dans un premier temps, il y avait même un peu d'hostilité de ces jeunes vis-à-vis de vous-même.
Oui, bien sûr, puisque j'étais là en sorte de médiateur entre l'autorité militaire et eux. C'est par moi que les choses passaient, si vous voulez. Mais en fait, je pense qu'assez vite, ils ont compris, et moi j'ai mieux compris de ce dont il s'agissait. Et je dois dire que, vous savez, je crois dans les miracles dans la vie. Et le miracle de ce travail forcé, c'est que cette unité militaire était dirigée par un lieutenant en réserve qui devait être assez âgé et qui était grec. Et il était antisémite aussi. Mais tous les antisémites ne sont pas féroces, si je puis dire. Et quand le printemps est venu, je me suis assez bien entendu avec lui et je crois que j'ai trouvé une sorte de formule, une sorte d'arrangement entre nous deux pour que tout ce travail devienne un travail beaucoup plus facile, si vous voulez.
Mais en fait, vous êtes là fort modeste parce que c'est une véritable négociation que vous entamez avec lui,
oui.
Ce qui peut paraître un peu paradoxal parce que vous vous présentez comme étant un jeune homme plutôt timide, plutôt réservé. Et là, eh bien, vous allez négocier avec l'ennemi, entre guillemets, avec qui vous avez d'ailleurs un rapport étrange.
Oui, c'est un rapport étrange. D'abord, je suis timide, je suis réservé, mais il ne faut pas marcher sur les pieds, si on peut dire. Et là, on était dans une situation désespérée. On ne pouvait pas faire les 3 mètres cubes. On ne pouvait pas accepter. Enfin, on ne pouvait pas tolérer cela. Et donc, je viens lui expliquer ça. D'autant plus que je l'ai vu. Parce que quand nous sommes allés la première fois, c'était la nuit, si on peut dire, très, très, très tôt le matin. Et je l'ai vu. Et il nous a vus. Ça, c'était très important. Il a compris que nous étions d'une certaine manière, des enfants au milieu de ces militaires. Et donc, j'ai essayé de à la fois de m'opposer et de négocier avec lui une formule qui nous permettait de, non pas de travailler moins, mais d'avoir une certaine liberté dans ce travail.
Brennt, Brüder, es brennt, oi unseroren Städtel nebech brennt. Böse Winden mit ihr Gossen, Reisen brechen und zerblossen, starker noch die wilde Flammen, als herumschäum brennt. Und ihr steht und guckt, als sei sich mit verlegte Hand. Und ihr steht und guckt, als sei sich unser Städtel brennt. Es brennt, Brüder, es brennt, oi unser Ohren Städtel nebech brennt. Es hoben schon die Feierzungen, das ganze Städtelein geschlungen, und die böse Winden huschen, das ganze Städtel brennt. Und die steht und guckt, als sei sich mit verlegte Hände. Und ich steht und guckt, als sei sich unser Städtel brennt. Es brennt, Brüder, es brennt. Oi, es kann Cholila kommen, der Moment. Unser Stadt mit uns zusammen soll auf Ascha weg in Flammen. Bleibel soll wie noch a Schlacht, nur puste schwarze Wind. Und die steht und guckt, als sei sich mit verlegte Hand. Und die steht und guckt, als sei sich unser Städtel brennt. Es brennt, Brüder, es brennt. Die Hilf ist nur in euch allein geweint. Ob das Städtel ist auch teuer, nehm die Kerl im Lech das Feier. Lech mit euer Regenblut, beweis, als ihr das kennt. Steht mit Brüder Rota so sich mit verlegte Hand. Steht mit Brüder lächt das Feier, unser Städtel brennt. Unser Städtel brennt.
La cabale vous aide alors, parce que c'est vrai que vos journées, c'est infernal. Que vous devenez des adultes sans passer par la case adolescence. Et c'est la cabale, étonnamment, qui vous aide à cette période-là.
Oui, je ne sais pas pourquoi je suis tombé sur un livre, parce que je lisais de manière boulimique. Hein. Je lisais tout ce que je trouvais. Nous n'avions pas de bibliothèque, si on peut dire. Et je tombe sur un livre de la cabale. Que j'aime toujours d'ailleurs. J'aime bien lire la Kabbale parce que je trouve que c'est à la fois poétique et profond. Je crois que parmi les livres du judaïsme, c'est le livre le plus visionnaire. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont répétitives, beaucoup de choses qu'on ne peut pas croire dans la Kabbale, mais aussi comme ça des fulgurances. Et je crois qu'on a toujours été attiré par la Kabbale. Et en même temps, c'est un livre interdit, parce qu'on ne pouvait pas lire la Kabbale avant d'avoir 40 ans. Et peut-être ça aussi m'a attiré. Mais vous voyez la chanson, c'est le pogrom, on imagine mal, mais le pogrom est aussi, le pogrom est aussi des flammes, on brûle. Hein. Ce n'est pas simplement qu'on agresse des gens, on incendie les quartiers, on incendie les maisons. Le pogrom, c'est quelque chose de très, très dur, parce qu'on a l'impression à un moment donné qu'on va périr dans les flammes du pogrom. Et donc, la Kabbale est aussi quelque chose qui a un rapport à ça. La Kabbale est un livre sur le feu et sur la lumière. C'est un livre où la seule matière, je dirais, la Kabbale dans ce sens-là est moderne, parce que toute la matière est de la lumière et du feu.
C'est la surprise politiquement. L'armée roumaine entre en guerre.
Oui.
Aux côtés de l'armée allemande et contre la Russie soviétique, les premières victimes, une fois de plus, sont juives.
Ah oui, alors, le 21 juin 1941, l'Allemagne entre en guerre, la Roumanie est alliée de l'Allemagne, et la première victoire remportée, c'était le grand pogrom de Jassy, où je pense qu'il y a eu de 8 à 10 000 morts. Et puis après, c'est le pogrom de Chisinau. C'est le deuxième pogrom pratiquement en 30 ou 40 ans. Parce que cette guerre est une croisade anti-bolchevique, et on dit que ce sont les Juifs qui ont tiré sur l'armée roumaine. Vous pensez bien qu'ils n'ont pas tiré. D'abord, ils n'avaient pas des armes, et puis si ce n'est pas une chose qu'on était habitué à faire. Et donc, sous ce prétexte-là, il y a ce pogrom qui est un des phénomènes les plus... Enfin, des événements les plus tristes de cette guerre. Enfin, et le mot triste est un mot faible pour l'écrire.
Chronique des années égarées, Serge Moscovici, édition Stock, un feuilleton présenté par Paul-Henriette Lévy.
Réalisation technique, Jean-Philippe Andlicher.